Bonjour, 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 auditrices, auditeurs de Radio Galère. Eh bien voilà, ce sont pour aujourd'hui les livres et les amis, c'est-à-dire le mercredi 14 janvier 2026. Françoise est rentrée, oui, Françoise est là. Swan est à la technique derrière la vitre. Ça fait du bien d'avoir le sourire de Swan derrière la vitre parce que justement, c'est ce dont j'étais en train de parler en privé et avec un micro fermé il y a quoi, 40 secondes, que vraiment ce monde... Comment pourrait-on dire en étant poli? C'est très difficile d'être poli sur l'état du monde. Ce monde qui ne tourne pas rond, voilà, soyons polis. Il tourne toujours pas rond et j'arrive pas à m'en remettre. Alors, je sais pas comment vous êtes vous, mais moi, j'arrive pas à m'en remettre. Donc, notre émission s'appelle « Livres et amis ». Figurez-vous quand même que j'ai décidé qu'aujourd'hui, on ne faisait pas tout à fait un livre et je vais vous expliquer ça. Alors, à part ça, ben, Radio Galère prépare son Assemblée Générale. Ça sera le 14 mars. On a comme d'habitude, des tas de choses à régler d'ici là. On a toujours, comme toutes les associations, des soucis de financement. Et en plus, là, on aurait vraiment besoin de renouveler notre trésorier. Donc... si vous êtes déjà un petit peu dans le circuit du conseil d'administration, des animateurs, animatrices intéressés par la gestion financière de notre radio galère préférée, eh bien écoutez, venez nous voir, faites-nous un petit signe, on aimerait bien remettre à flot Radio Galère, comme le dit le petit mot qui est sur le bandeau du site de la radio. Mais on aimerait bien aussi mettre en place une petite équipe de 2 ou 3 personnes de gestion de la trésorerie qui puisse prendre le relais de Romain qui faisait ce boulot depuis quelques années et qui commence à saturer un petit peu. Donc voilà, ça c'était les problèmes et les solutions, bien sûr, de Radio Galère, puisque finalement, à Radio Galère, nous avons bien sûr des solutions. Le monde qui tourne pas rond, bah, malheureusement, on a moins de solutions. À part ça, les nuits de la lecture. Les nuits de la lecture, c'est la semaine prochaine, du 21 au 25 janvier. Donc, en particulier à Marseille, dans les médiathèques, il y a un certain nombre d'événements, d'animations... informez-vous, allez voir les sites Nuit de la lecture. Je dois dire que moi, je ne me suis pas encore trop penchée sur la question, mais puisque c'est du 21 au 25 janvier, voilà, la semaine prochaine, on a le temps de s'informer. Et puis, comme d'habitude aussi, nos théâtres et nos cinémas favoris, nos librairies favorites. Je suis passée à l'Hydre aux mille têtes. Et ils ont plein d'animations aussi à partir de cette semaine. Pendant le mois de janvier, pendant le mois de février, ils ont vraiment des rencontres intéressantes. À Transit aussi, il y a des rencontres intéressantes. Donc, allez voir les sites de l'Hydre aux mille têtes, les sites de Transit, Gyptis, La Baleine, etc. Il y a vraiment plein de choses qui se passent. Au théâtre, à la fin de la semaine, il y a Rumba au théâtre de la Joliette. Alors j'aime bien dire Rumba parce que Rumba, bah oui, ça fait un peu rêver, même si le thème de la pièce est peut-être moins drôle que la sonorité du mot nous le fait croire. Mais très intéressant, donc sur le décalage, les décalages dans la société de consommation. Et donc, allons au théâtre, allons au cinéma, allons voir les animations de nos librairies habituelles. Et puis, il y a toujours à côté de l'Hydre aux mille têtes, la boulangerie Merlin qui fait toujours du bon pain. Donc, on peut manger, boire et chanter, comme disaient les musiciens de la charnière là, entre le 19e et le 20e siècle. Bah oui, on peut se consoler Un verre à la main, après tout, on n'est pas si loin du 1er janvier. Donc, ne buvons pas trop. Qu'est-ce que c'est leur truc, là un verre, ça va. Trois verres, bonjour les dégâts. C'était un vieux truc, ça. Ça m'a toujours fait rire. Donc, voilà. Buvons avec modération. Chantons sans modération. Vivons la radio avec plaisir. Et puis, essayons de nous remettre. Donc, pour la lecture et pour les livres, figurez-vous que dans l'esprit de la semaine dernière, où je disais que je parlais beaucoup des femmes, des livres de femmes, etc., je parle aussi beaucoup de politique, et nous avions, fin 2025, nous avions lu des livres, entre guillemets, de collectifs. C'était des prises de parole sur Le Monde et sur Marseille en particulier, des publications donc, de groupes qui avaient décidé de prendre la parole et peut-être de prendre la parole autrement. Et les livres donc, dont nous avons lu des extraits, ces livres de collectifs, étaient en principe annoncés comme des numéros 1 de revues. Alors je ne sais pas si ces revues verront un jour des numéros 2, 3 et la suite. Mais après tout, puisqu'il y a des revues qui ressemblent à des livres, eh bien moi j'ai décidé cette semaine de vous lire non pas un livre, mais un journal. J'ai eu envie, comme les collectifs dont nous avons parlé, de dire le monde et de dire le monde autrement, puisque justement ce fichu monde ne tourne pas rond, de dire tout ce qui me contrarie dans la façon dont le monde ne tourne pas rond. La presse magazine, ça fait longtemps que je ne la lis plus, parce que les magazines un peu papier glacé, bon évidemment l'Express, le Point et compagnie, n'en parlons pas. Mais même le Nouvel Observateur ou le M hebdomadaire du Monde, moi je ne feuillette plus parce que j'en ai ras-le-bol, entre guillemets, de ces publicités scandaleuses. Alors d'abord de certains messages biaisés, hein, parce que la presse magazine, elle appartient dans son intégralité au grand groupe capitaliste qui nous abreuve de messages que j'appelle biaisés, mais je ne sais pas comment il faudrait les appeler, là encore, en parlant poliment. En tout cas, les pubs scandaleuses, j'en ai, comme je disais, ras-le-bol, parce que non, je n'achèterai pas de stylo Montblanc, non, je n'achèterai pas de montre Breitling, non, je n'achèterai pas de sac Louis Vuitton, comme je n'achèterai pas de Porsche d'ailleurs. Donc, vous êtes sûrement dans mon cas, hein, les stylos Montblanc, les montres Breitling, les sacs Louis Vuitton et les Porsche, bah, d'abord, c'est pas dans nos moyens, et puis quand même, faut arrêter de, là, j'allais être encore impoli, donc je m'arrête. Mais c'est odieux, enfin moi je trouve ça odieux, quand on achète un magazine en kiosque, de trouver ces pubs pour des objets qui coûtent des sommes faramineuses, à qui s'adresse-t-il? Bon ben en tout cas pas à nous. Donc puisqu'il ne s'adresse pas à nous, ben moi en tout cas je ne les lis plus. Donc début 2026, j'en étais là à ne pas lire la presse magazine. Et quand même, j'avais envie de lire ou partager peut-être je sais pas comment on peut dire, ma réaction vitupérante vis-à-vis de l'intervention des États-Unis au Venezuela. Parce que l'intervention des États-Unis au Venezuela, c'était la nuit du 2 ou 3 janvier. On s'est réveillé le 3 janvier avec des informations du genre explosion à Caracas, bombardement à Caracas. Enfin, on ne savait pas trop ce qui se passait. Et puis très vite, on s'est rendu compte, en effet, enfin, on a quand même eu des informations, que bah oui, ces explosions, ces bombardements, c'était le fait de l'armée des États-Unis qui était intervenue donc, dans la ville de Caracas pendant la nuit pour, dominer très rapidement les centres armés, ou enfin les centres de la police ou de l'armée vénézuélienne, et pour enlever le président Maduro. Alors, on peut penser ce qu'on veut de Maduro. Il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'il a été mal élu. Il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'en effet, son exercice du pouvoir tendait à la tyrannie. Bon, très bien, mais enfin, il n'empêche quand même que, jusqu'à nouvel ordre, le Venezuela est un pays souverain et qu'il n'y avait pas eu de scandale soulevé à l'ONU ou ailleurs quant à la situation intérieure du Venezuela. Le seul qui, enfin le seul si on peut dire, qui se scandalisait de la chose, c'était Monsieur Trump. Alors Monsieur Trump, il s'est tellement scandalisé de la chose que depuis le mois de octobre-novembre, après avoir en effet vitupéré lui aussi, comme il sait le faire, n'est-ce pas, contre Monsieur Maduro, qui l'accusait d'être un tenant du narcotrafic et de je ne sais quoi. Enfin bon, c'est tellement fantaisiste les accusations de Trump que on ne sait jamais s'il faut vraiment les prendre au sérieux ou pas. Ben oui, là, cette fois-là, ou cette fois-ci, il a vraiment, non pas fait une déclaration de bluff, mais une vraie intervention militaire dans un État souverain pour aller enlever le président et dire que, puisque ce président était un gangster international, il n'avait aucune raison d'être là. Ben voyons. Alors, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais les bombardements et les interventions armées à Caracas, moi, ça m'a rappelé les bombardements et les interventions armées à Santiago du Chili le 11 septembre 1973. Si ce n'est que, évidemment, le président Allende avait été démocratiquement élu et que même si ça n'avait pas du tout plu aux États-Unis à l'époque, il n'y avait rien à dire contre lui sur un plan international, alors qu'il y aurait peut-être eu des choses à dire contre Maduro. Donc, sidération internationale, le matin du 3 janvier, le président du Venezuela a été enlevé, comme en effet, je ne sais pas ce qu'il faut dire, un vulgaire gangster, et mis en prison aux États-Unis parce que le président des États-Unis en a décidé ainsi. Alors, sidération de ma part et puis sidération internationale parce que le 3 janvier au matin, personne ne bronche. Le 4 janvier au matin, il n'y a pas encore beaucoup de gens qui ont bronché. Et dans la suite des analyses, ben non. Finalement, les protestations, c'était quoi ? C'était quelques petits rassemblements. Il y a eu un rassemblement le soir du 3 janvier à Marseille, comme dans d'autres villes en France, comme dans d'autres villes en Europe. Quelques militants de gauche ou d'extrême gauche se sont réunis, oui, pour protester contre ce coup de force des États-Unis. Mais finalement, qui a protesté ? Bah, la chose est passée quasi inaperçue à l'Assemblée européenne, la chose est passée quasiment inaperçue à l'ONU. Et qui a protesté vraiment ? Bah, je cherche encore. Donc, sans parler du fait que quand même il y a eu entre 100 et 150 morts hein, dans ces opérations militaires. Donc, une armée d'un pays extérieur intervient, bombarde, fait des morts. Et puis voilà, bah, ça passe à la trappe. On arrête d'en parler. Alors j'ai un peu cherché quand même. J'ai vu passer sans doute sur les ondes ou justement dans la presse que quand même je lis encore un petit peu, une publicité pour le monde diplomatique qui annonçait un article sur Trump, pirate des Caraïbes. Alors évidemment, le numéro de janvier du monde diplomatique, étant donné qu'il avait été écrit dans les derniers jours de décembre 2025, il ne pouvait pas faire état du coup de force de la nuit du 2 ou 3 janvier. Mais, me suis-je dit, le monde diplomatique étant en effet un organe tout à fait lisible et puis surtout très bien informé et qui donne la parole, ou plutôt l'écrit, à des analystes véritablement brillants, je me suis dit, tiens, je vais acheter le monde diplomatique pour aller voir ce que c'est que cet article. Trump, pirate des Caraïbes. J'aimais bien le titre d'abord. Et puis je me suis dit que ça devait être intéressant, justement, étant donné ce qui avait suivi dans les événements. Donc voilà, j'ai acheté le monde diplomatique. Et quand on commence à lire le monde diplomatique, ben on n'arrête pas, hein, parce que, évidemment, ça coûte 5,90 €. Alors, c'est presque aussi cher qu'un livre de poche. Mais ça fait 28 pages format A3. Il y a beaucoup à lire. Enfin, je veux dire, c'est pas étonnant que ça soit aussi cher qu'un livre, parce qu'il y a autant à lire que dans un livre. Et donc, ben voilà, j'ai passé un certain nombre de jours à lire Le Monde diplomatique et je me suis dit que j'allais vous en faire profiter parce qu'il y a dans ce numéro de janvier que je vous invite tout à fait à acquérir en kiosque auprès de nos kiosquiers qui ont disparu pour pratiquement la moitié d'entre eux. Donc, auprès des kiosquiers restants, allez acheter Le Monde diplomatique de janvier, c'est bien. Et puis le lire, c'est encore mieux. Et je vais donc vous faire une petite lecture de ce que j'ai trouvé dans ce numéro de janvier. Donc, si vous voulez, mon livre du mercredi, là, c'est, comme je le disais, c'est un journal. On a un peu de mal à manipuler un journal. Vous savez, dans les émissions Livres et Amis, je vous dis de temps en temps, attendez, on tourne les pages. Eh bien, tourner les pages d'un journal, c'est encore plus compliqué que de tourner les pages d'un livre. Donc, il y aura des blancs, je vous préviens tout de suite. C'est ma seule réserve vis-à-vis du monde diplomatique, c'est que c'est un format traditionnel de journal. Et que j'ai un peu de mal avec un format traditionnel de journal. En plus, quand je suis installée là, à la table de la radio et qu'il faut que je tourne les pages sous le micro, à côté, etc., etc., que je le passe à Françoise, parce que quand même, comme Françoise est là, elle va lire. Enfin, bref, on va essayer de vous faire une émission pas trop décousue. Et on va tourner autour de deux ou trois articles et deux ou trois analyses. Monsieur Trump, pirate des Caraïbes, ça sera seulement dans un deuxième temps. J'ai trouvé d'abord, en première page, et puis la suite, comme d'habitude, en page intérieure, j'ai trouvé un article que je trouve génial pour notre émission Livres et Amis. Ça s'appelle, figurez-vous, « Éloge du papier ». Et oui, éloge du papier, comment dissiper le brouillard de données, de nouvelles, d'images qui grésillent sans trêve sur nos écrans? Eh bien, par une méthode révolutionnaire, quoique vieille de 2 millénaires et encore plus précisément de 500 ans. Donc, une méthode qui pourrait bien offrir un asile aux déserteurs de la guerre de l'attention, avec des vertus qui stupéfient ses usagers et un pouvoir qui affole la Silicon Valley, figurez-vous que c'est l'information papier. L'information papier, le bon vieux journal, donc. De quoi s'agit-il ? Il s'agit pour les journalistes du monde diplomatique. Et là, en l'occurrence, de qui s'agit-il ? Je n'ai pas le nom de l'auteur. Qui est l'auteur? Je ne sais pas. Ah si, les auteurs sont Benoît Bréville et Pierre Rimbert. Donc, il s'agit pour eux de nous dire toutes les vertus de l'information papier et au contraire, bien sûr, tous les travers de l'information rapide et ultra rapide même des écrans. Alors, attention! Voici des textes hors du temps, des flux et du tourbillon numérique auquel nous sommes soumis. La construction de l'information papier n'obéit pas aux nouvelles règles adoptées par les journalistes, blogueurs, influenceurs, éditeurs de tout site pour tenter de survivre à la guerre de l'attention qui sévit sur les écrans. On entamera la lecture de l'information papier sans connaître le nombre magique qui désormais précède la première phrase du moindre article en ligne, celui des minutes requises pour le parcourir. En effet, du temps de cerveau humain disponible, comme disait l'ancien président directeur général de TF1, Patrick Lelay, du temps de cerveau disponible donc dont il se vantait pour pouvoir vendre Coca-Cola à la mise aux enchères, et de ce temps de cerveau disponible finalement à l'utilisation des consciences orchestrées par les plateformes numériques, eh bien l'économie des médias a changé de nature, et en changeant de nature, elle a peut-être changé d'origine et aussi changé d'objectif. Et c'est surtout le rythme de l'information qui s'est accéléré et qui a connu une accélération vertigineuse. Donc, quand j'aurai tourné la page, je passerai la parole à Françoise pour qu'elle nous lise la suite. Ici. Confrontés
au déluge de données et à l'impossibilité de tout assimiler, les humains réagissent de diverses manières. Au XVIe siècle en Europe, la popularisation de l'imprimerie, l'abordage du Nouveau Monde et la redécouverte des auteurs de l'Antiquité provoquent un raz-de-marée éditorial. Existe-t-il un lieu sur Terre qui échappe à ces nuées de nouveaux livres ? Se lamente l'humaniste Erasme, lui-même auteur prolifique, en 1525. Et le théologien néerlandais de fulminer comme s'il venait de passer une heure sur X. Les imprimeurs déchaînés couvrent le monde de pamphlets et de livres stupides, ignorants, malveillants, calomnieux, fous, impies et subversifs. Le flot est tel que même les choses qui auraient pu faire du bien perdent toutes leurs vertus. On perçoit la même réprobation chez le réformateur Jean Calvin, irrité par cette forêt confuse de livres, et un siècle et demi plus tard, chez le premier biographe de René Descartes, Adrien Bayet, 1649-1706, nous avons des raisons de craindre que la masse de livres qui augmente chaque jour de manière prodigieuse ne fasse sombrer les siècles à venir dans un état aussi barbare que celui des siècles qui suivirent la chute de l'Empire romain. Entre le début du XVIe siècle et la fin du XVIIIe, le nombre de titres publiés à Londres est multiplié par 150. Mais plutôt que de dresser un bûcher décadent façon sardanapale, les savants contournent la surabondance par l'organisation méthodique du savoir. C'est le temps des almanachs, des anthologies, des encyclopédies, des manuels, mais aussi des biographies, des index thématiques.
Et c'est surtout le temps des bibliothèques. C'est très amusant, enfin j'ai trouvé que c'était très amusant en effet de voir que, à l'époque de l'invention de l'imprimerie, les intellectuels de l'époque s'étaient choqués justement de la multiplication des supports, bah exactement comme là nous venons de le faire à propos de la multiplication des sites, des écrans, etc. etc. Alors, y a un petit encadré dans le monde diplo qui est bien sûr le fait de nos auteurs, Benoît Bréville et Pierre Rimbert, mais soutenu par toute leur rédaction, et qui nous explique précisément le bien fondé et la valeur de l'écrit par rapport à la multiplication des autres supports. Alors ce petit encadré, c'est presque un manifeste. En tout cas, ça en a le ton. Aidez-nous à faire découvrir ce journal et à amplifier sa diffusion auprès des personnes qui ne connaissent pas le bonheur de la lecture sur papier. Donc vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, allez au kiosque, achetez Le Monde Diplomatique, ben c'est exactement ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, allez dans les kiosques et allez dans les librairies, achetez de l'information sur papier. Pour transmettre le réflexe d'un temps d'arrêt mensuel, on peut offrir un abonnement, voire plusieurs, et on peut aussi inciter ses proches à visiter un kiosque, un marchand de journaux, une maison de presse. Le Monde Diplomatique y bénéficie généralement d'une bonne exposition. Mais la crise des journaux a détourné les lecteurs de ces lieux. Plus d'un tiers, soit 11 000 sur 30 000, on parle des kiosques, ont fermé ces 20 dernières années, notamment dans les zones rurales et périurbaines. Alors, accompagner ses amis, ses collègues, ses camarades, et j'ajouterai ses auditeurs, accompagnez-les donc, achetez votre Monde Diplo. Ça sera faire d'une pierre deux coups. Pardon. Ça sera affirmer son soutien à notre titre singulier, dont l'existence et le succès relèvent un peu du miracle. Ça sera aussi conforter cette civilisation du papier qui oppose le temps de vivre à la fébrilité connectée. Contre les plateformes dégénérées, le Monde Diplomatique construit un réseau social d'un type nouveau, des humains qui lisent un journal fait par des humains et le recommandent à d'autres humains, car ils croient, comme disait Jean Jaurès, à la réalisation de l'humanité. Alors évidemment, l'humanité, c'est un autre titre, mais c'est intéressant, cette espèce d'autopublicité, enfin ce petit texte, je dirais en effet, autopublicitaire, à l'intérieur du monde diplomatique. Et on va reprendre la suite de l'article, puisque, en fait, ce que nous disent les auteurs ici, c'est qu'au XIXe et au XXe siècle, les journaux se sont multipliés. Et puis, à nouveau, enfin, on pourrait dire par contre, ensuite, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en particulier depuis la fin des années 60, les journaux, au contraire, ont vu leur influence réduire, et en même temps que leur influence, bien sûr, leur diffusion, ou en même temps que leur diffusion, leur influence, comme on pourrait dire. Donc, on finit un petit peu cet article sur la presse. Ah oui, c'est dur, hein. Alors Françoise, elle est en train de replier le journal là, pour prendre la suite de la lecture.
Il y aura désormais moins de liberté pour les ennemis du libéralisme. Et qui défendra la libre communication des pensées et des opinions, alors que l'extrême droite occupe ce terrain et dénonce bruyamment l'institution d'un ministère de la vérité. Ayant rebaptisé « liberté d'expression » le pouvoir des propriétaires d'imposer leur point de vue aux plateformes et aux chaînes privées, X ou CNews promeuvent un « free speech » qui consiste à censurer ou à dénigrer quiconque se prononce en faveur de la Palestine, des mouvements LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels et trans, de l'impôt, des syndicats, de l'antifascisme, du communisme, etc. » Au risque de doucher l'enthousiasme des dissidents numériques, il faut rappeler que la quasi-totalité des infrastructures numériques pouvant se targuer d'une audience de masse appartiennent soit aux industriels américains qui se précipitaient en janvier dernier pour baiser l'anneau de M. Trump, soit à des États censeurs. Les uns et les autres parfois s'entendent. Quand la plateforme TikTok a été jugée trop poreuse aux critiques d'Israël, le président américain a obligé son propriétaire à la vendre à un milliardaire proche de Tel Aviv, provoquant un changement de ligne mais pas de rythme. Pour lutter à armes égales, partisans et adversaires engagés dans chaque grande cause clivante s'accordent en effet sur la même tactique, inonder la zone, saturer l'espace de nouvelles, de données, de démentis. Alors, un journalisme traditionnel qui capitule face aux exigences de l'audience numérique, un cadre réglementaire européen qui évacue dans le même bain fausses informations, propos illégaux et opinions critiques, le destin d'une presse libre repose plus que jamais sur une refonte globale capable de soustraire l'information à l'enclume du marché comme au marteau de l'État. En attendant qu'un gouvernement manifeste pareille volonté, les réfractaires peuvent ouvrir sur le monde la fenêtre de papier que vous tenez entre les mains.
Fenêtre de papier, oui, c'est joli. Alors, fenêtre de papier, on va prendre le relais avec, au contraire, un petit peu de son. Et puisqu'on parlait d'histoire, eh bien, on va écouter Joan Baez quand, en 1963, elle soutenait la marche pour les droits civiques à Washington. Ça va vous rappeler des souvenirs, sûrement.
Oh,
come someday. I do believe. Alors, elle y croyait, on y croit encore. Oui, we shall overcome, c'est un vieux chant traditionnel. Et we shall overcome, c'est-à-dire on réussira, on y arrivera, on prendra le pouvoir. Continuons à y croire et continuons donc à lire des analyses structurées et intéressantes. En l'occurrence, là, ça y est, j'y suis arrivée à l'article qui s'appelle « Mr. Trump ». Pirates des Caraïbes. La doctrine Monroe revient en force en Amérique latine, assortie d'un corollaire Trump. Objectif des États-Unis, restaurer leur domination continentale, repousser l'influence chinoise, mettre la région au service des priorités intérieures définies par la Maison-Blanche et vassaliser les droites locales, gagnent du terrain et jubilent. S'il n'y avait que les droites locales d'Amérique latine, ça serait bien, mais les droites, bah oui, elles gagnent du terrain et elles jubilent un peu partout dans le monde. Il y a des choses à faire, vraisemblablement. Petit retour en arrière. Il est responsable de plus de 3000 disparitions ou assassinats. Sous ses ordres, environ 40 000 personnes furent soumises à la torture. Certaines en portent encore les séquelles. Et sans surprise, les portraits d'Augusto Pinochet étaient devenus rares au Chili depuis la fin de la dictature qu'il avait imposée au pays de 1973 à 1990. Mais le 14 décembre 2025, ces portraits firent un grand retour à Chicago, à Santiago. C'est drôle les lapsus. Ces portraits firent un grand retour à Santiago pour célébrer la victoire à l'élection présidentielle de Monsieur José Antonio Kast, qui se revendique fièrement de la succession du général putschiste Pinochet. Il y a 14 ans pourtant, des étudiants s'emparaient des rues du Chili au cours des plus importantes manifestations qu'avait connues le pays depuis le retour de la démocratie. Ils exigeaient une éducation gratuite et de qualité, et plus largement la fin du modèle néolibéral inscrit dans la Constitution de 1980, héritière de la dictature. Eux aussi avaient leur icône, dont les portraits chamarraient largement les rassemblements. C'était le portrait de Salvador Allende, président socialiste du Chili, élu en 1970 et renversé par Pinochet en 1973. L'un des étudiants protestataires de l'époque, Gabriel Boric, avait poursuivi sa carrière politique jusqu'à prendre la tête du pays. Il avait été le président élu en 2022, sans cesser d'invoquer le nom d'Allende. Mais en 2025, c'est M. Kast qui lui succédera et il va effectivement exercer le pouvoir dans 2 mois maintenant, à partir du 11 mars 2026. En 1973, la Maison-Blanche avait initié le coup d'État de Pinochet. « Je ne vois pas pourquoi nous devrions laisser un pays devenir marxiste simplement parce que sa population est irresponsable », avait alors justifié Henry Kissinger. 50 ans plus tard, le président américain se félicite de la victoire à la présidentielle chilienne de celui qu'il a soutenu, officiellement. Soutenu. Avant le retour au pouvoir de M. Trump, Washington n'affichait pas aussi crânement son parti pris dans les affaires du sous-continent latino-américain. Mais la déclaration du président milliardaire a peu surpris. L'Amérique latine a compris que l'actuel locataire de la Maison-Blanche s'intéresse beaucoup à elle. La démocratie au Honduras sera mise à l'épreuve lors des prochaines élections qui se tiendront le 30 novembre, avait alerté justement en octobre-novembre le président américain sur la plateforme Truth Social, qui est son média favori. C'était en particulier le 26 novembre dernier. La campagne électorale au Honduras était pourtant close depuis 3 jours, selon les règles fixées par le Conseil national électoral. Mais M. Trump adressait aux millions d'électeurs honduriens une consigne de vote directe pour l'homme d'affaires conservateur Nasri Tito Asfoura du Parti national, l'ami de la liberté. Deux jours après son message, il précisait sa pensée sous la forme d'une menace. Si son candidat remportait la présidentielle, les États-Unis lui accorderaient tout leur soutien. S'il ne gagnait pas l'élection, ils ne gaspilleraient pas leur argent, car un mauvais dirigeant ne peut qu'entraîner des résultats catastrophiques pour un pays. Et Washington a concentré sa présence militaire en Amérique centrale, en particulier autour de Tegucigalpa, la capitale du Honduras, un pays qui dispose d'une façade caribéenne. Ils ont même une base aérienne à Sotocano, cette base aérienne qui héberge la Joint Task Force. C'est leur groupe conjoint, leur groupe armé, qui est un groupe entre les deux pays, partie armée des États-Unis, partie armée du Honduras. Et là, sur place, dans cette base aérienne de Sotocano, il y a 500 soldats américains pour des missions théoriquement humanitaires, de formation sécuritaire et de lutte contre le trafic de drogue. Depuis 2025, la présidente de gauche, Xiomara Castro, avait menacé de mettre un terme à cette coopération pour protester contre la politique d'expulsion de migrants voulue par M. Trump, qui allait bientôt frapper des dizaines de milliers de ressortissants du Honduras. D'où les messages vengeurs de M. Trump. Tu prends la suite ?
Au cas où certains Honduriens ne l'auraient pas bien compris, plus de 90 000 habitants, tous titulaires d'un compte bancaire national récepteur de remesas, ces fonds transférés par les migrants à leurs proches, reçoivent des messages sur leur téléphone entre le 27 et le 29 novembre. Un lien les redirige vers un contenu audio leur annonçant que si Mme Rixi Moncada, du même parti que Mme Castro, est élue, ils ne recevront pas leur remesas au mois de décembre. Au Honduras, plus d'un quart du produit intérieur brut, le PIB, est constitué des envois d'argent effectués par les quelque 2 millions de personnes installées sur le territoire nord-américain. Le 1er décembre 2025, c'est le miracle. Donné perdant dans les sondages, l'ami de M. Trump est annoncé vainqueur par les autorités électorales, un résultat que les autres candidats ne reconnaissent pas. Ce dernier est rassuré. Lui qui tient Mme Castro et Moncada pour des comparses de M. Nicolas Maduro, et s'était alarmé que le président bolivarien et ses narcoterroristes puissent s'emparer d'un autre pays comme ils l'ont fait de Cuba, le Nicaragua et le Venezuela. Depuis septembre 2025, les États-Unis concentrent la plus grande armada navale réunie dans la région depuis la crise des missiles à Cuba en 1962. D'après le président américain dont l'administration impose une guerre hybride à Caracas, les jours du dirigeant chaviste sont comptés. Sa chute entraînerait, espère-t-il, celle du régime cubain. Aux sanctions financières et économiques qui asphyxient le Venezuela, s'ajoute l'organisation d'une campagne de diabolisation médiatique contre M. Maduro, de fait contestée dans le pays comme dans la région. Désormais, Washington impose un blocus maritime pétrolier à Caracas. L'Agence centrale de renseignement, CIA, a été autorisée à mener des opérations secrètes en vue de potentielles interventions sur le territoire et la marine américaine intensifie ses bombardements en mer contre les embarcations accusées de transporter de la drogue. Qualifiée d'exécution extrajudiciaire par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, ils ont déjà causé la mort de plus de 100 personnes au 18 décembre 2025.
Oui, alors c'est intéressant de se dire qu'en effet, là on est encore à la fin de l'année 2025, les États-Unis se sont déjà octroyé le droit d'intervenir, de faire, disons, une police internationale dans les eaux territoriales du Venezuela, parce que sous l'étiquette de la lutte contre le narco-terrorisme, entre guillemets, ou le narco-banditisme, il faut intervenir, en effet, dans la vie, finalement, économique du pays, du Venezuela. Donc, ces interventions ont déjà fait, on l'a vu, les deux derniers mois de 2025, une centaine de morts. Donc, ce sont vraiment des interventions armées. Il y a vraiment une flotte américaine qui s'est mise en place dans l'ensemble des Caraïbes pour intervenir contre l'économie vénézuélienne, puisqu'il s'agit en fait d'exportation de pétrole. Hein. Mais... Qui intervient donc, enfin disons que l'armée américaine intervient sous couvert de lutte contre le narco-banditisme ou le narco-terrorisme.
Ces ingérences ne suscitent aucune récrimination dans les chancelleries occidentales, d'ordinaire promptes à traquer agressions militaires ou manipulations électorales, à condition qu'on puisse les attribuer à Moscou. La stratégie fonctionne.
Ainsi, la stratégie fonctionne, oui, c'est ça.
Avant le scrutin législatif argentin du 26 octobre, le président américain avait exercé un chantage économique et financier comparable à celui qui a convaincu les Honduriens, ou bien il déverserait financement et investissement sur Buenos Aires en cas de victoire du candidat de la Maison-Blanche, Javier Milei, ou bien il lâcherait le pays et lui compliquerait la vie à arrêt des aides bilatérales, augmentation des droits de douane, fermeture de l'accès au marché américain. Tandis que les sondages lui promettaient une victoire étriquée, l'allié libertarien de M. Trump a finalement remporté ses élections avec une confortable avance pour l'opposition péroniste. Les instruments de pression ou de rétorsion de Washington contre les pays latino-américains favorisant son redéploiement sur leur territoire sont nombreux. Souvent moins bruyantes que les immixtions politiques directes, les messages sur Truth Social et les sanctions extraterritoriales, Cuba, Nicaragua, Venezuela, les mesures de répression commerciale de l'administration américaine tétanisent les États de la région. Tous cherchent dès lors à éviter les foudres de M. Trump et à négocier dans l'espoir d'obtenir un assouplissement ou une levée de tel ou tel droit de douane.
Oui, en fait, c'est bien ce que nous explique le journal. C'est non seulement M. Trump, pirate des Caraïbes, mais c'est vraiment les États-Unis rétablissant the big stick, c'est-à-dire la loi du bâton, la loi du pouvoir de domination sur l'ensemble des régions, enfin sur l'ensemble des pays latino-américains. Donc nous avons vu les exemples type les interventions directes aux élections du Honduras ou de l'Argentine, et on voit donc maintenant l'intervention militaire au Venezuela. Le président républicain a repris les principes bien connus de la doctrine Monroe, c'est dont on parlait dans le titre. Cette doctrine Monroe, donc baptisée du nom du président James Monroe, le premier à avoir désigné en 1823 l'Amérique latine comme une sphère d'influence officielle dévolue à son pays, en bannissant toute nouvelle colonisation venue d'ailleurs ou toute nouvelle intervention européenne. Pour la Maison-Blanche, la menace chinoise a remplacé la menace de l'Europe et les États communistes ou narco-terroristes latino-américains sont considérés comme responsables de flagrants actes répréhensibles auxquels il faut mettre un terme. En fait, pour contrer l'influence de Pékin, le président américain prône une nouvelle diplomatie commerciale à l'endroit des pays du sous-continent. Parenthèse personnelle, bon, on l'a bien vu dans ces espèces de déclarations complètement, je ne sais pas comment il faut dire, incohérentes sur les droits de douane. Mais en effet, la manipulation des droits de douane à l'emporte-pièce, comme ça, au jour le jour, un jour oui, un jour non, un jour plus, un jour moins, c'est quand même, pour des pays, disons, à l'économie fragile, une menace redoutable. Et puis, les aides, enfin, disons, le fait que les États-Unis dispensent leur aide, entre guillemets, humanitaire ou pas, c'est également, pour ces pays, une menace terrible. Donc, en fait, Washington enjoint, là je reprends ma lecture, enjoint à ces différents pays d'adapter leur politique à celle des États-Unis. Et parce que l'Amérique latine recèle de nombreuses ressources stratégiques effectivement nécessaires aux États-Unis, comme les hydrocarbures, les matières premières, les produits agricoles, les infrastructures et les sites géographiques de leur domination, les États d'Amérique latine, donc, peuvent contribuer au renforcement des chaînes d'approvisionnement qui sont maintenant détenues dans le continent américain, de façon à réduire la dépendance des États-Unis et au contraire à augmenter la résilience économique américaine. Les documents qui émanent des gouvernements, enfin disons des ministères américains ou plutôt états-uniens, permettent d'accroître la pression sur leurs partenaires. Et ceux qui obtempèrent sont récompensés. Quant aux fortes têtes, eh bien, la superpuissance américaine choisira des moyens pour les dissuader de collaborer avec d'autres. En fait, ce qui change aussi, là c'est à nouveau moi qui reprends la parole, ce qui change aussi, c'est le fait que M. Trump annonce directement ses interventions. Mais il annonce tellement de choses qu'on a quelquefois tendance à croire qu'il bluffe. Eh bien non, il ne bluffait pas. Et voilà, donc, il n'avait pas, disons, admis que Nicolas Maduro ne se soumette pas. Donc, Nicolas Maduro, tranquillement, la nuit du 2 au 3 janvier, a été enlevé dans son palais présidentiel par l'armée américaine. Et voilà, il est maintenant prisonnier dans une prison constitutionnelle, disons, aux États-Unis, puisqu'il avait résisté au pouvoir de M. Trump. Alors, j'ai quand même trouvé dans les moyens d'information Internet, hein, il en faut bien, des reportages, en particulier un reportage de L'Orient le Jour, donc cet organe d'information qui est installé au Liban, à Beyrouth, un reportage très bien fait, très bien construit sur les étapes de la préparation et de la mise en œuvre de l'intervention états-unienne à Caracas. Pendant 3 mois, les membres de la CIA, bien sûr, ont fait de l'espionnage sur le rythme de vie, les habitudes de vie de M. Maduro pour pouvoir intervenir, on dira, sans coup férir. Là, c'était une opération bien montée. Hein, ça ne marche pas toujours, les opérations américaines, mais celle-là, elle a bien marché. Quitte à faire, on l'a vu, plus de 100 morts dans la capitale, mais il n'empêche, l'enlèvement du président et son arrestation, puisqu'il s'agit de cela d'après les États-Unis. Alors, je voulais aussi appeler votre attention sur un certain nombre d'illustrations qui figurent dans le monde diplomatique. Les dessins, je ne connaissais pas ce peintre, cet artiste. Les illustrations de l'article sur M. Trump, pirate des Caraïbes, sont de José Gamarra. Et José Gamarra fait des peintures que j'appellerais des peintures de type naïf, qui nous montrent tout simplement les armements descendant du ciel, entre guillemets, au-dessus de Caracas. Hein, c'était très préfiguratif, ces peintures, au même titre que l'aide humanitaire. Donc une espèce de bombardement mitigé De secours sanitaires, mais aussi de tanks, de chars, d'armes, ah oui, d'instruments de musique, de t-shirts, enfin bon, tout ce que les États-Unis peuvent laisser tomber du ciel, entre guillemets, au-dessus des pays latino-américains. Et puis, dernier article dont je voulais vous lire des extraits aujourd'hui, qui me semblait très intéressant dans le monde diplomatique de janvier, donc, c'est un article qui s'appelle L'ère des répressions. L'article commence non pas par un chapeau, mais par quelques exemples de ces répressions, et nous verrons, enfin nous n'aurons pas le temps de lire de larges extraits, mais enfin nous verrons quand même en effet un certain nombre de ces exemples. En décembre dernier, la dirigeante de la Confédération générale du travail, Sophie Binet, était mise en examen pour avoir qualifié des patrons de rats qui quittent le navire. Bah oui, non, ça a été ressenti comme une insulte par ces messieurs. Donc, finalement, Madame Binet a été mise en examen. Un mois plus tôt, le Collège de France devait annuler un colloque universitaire sur la Palestine. On ne sait pas trop pourquoi et on ne sait pas trop qui avait joué de son influence pour faire annuler ce colloque qui était en effet universitaire et qui faisait intervenir des spécialistes, à la fois politologues, sociologues et historiens, sur précisément le passé et l'actualité de la Palestine. Et puis, ces dernières semaines, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a ainsi porté plainte contre l'humoriste Pierre-Emmanuel Barré et contre les concepteurs d'un jeu de société avec, disons en commun avec quatre députés. Parce que les concepteurs du jeu et Pierre-Emmanuel Barré avaient critiqué la police et avaient, dans leur jeu de société, critiqué une police qui semblait ne plus avoir de comptes à rendre. Alors oui, on va peut-être bannir ou entre guillemets censurer maintenant comment pourrait-on dire, des publications parallèles, hein, un jeu de société, qu'est-ce que c'est? C'est pas de l'information en tant que telle. Mais enfin, en tout cas, on porte plainte contre des publications parallèles qui semblent mettre en cause le rôle de la police. Sans parler, bien sûr, d'une justice exténuée qui commence à être assez discréditée. Alors, l'état de droit tend à devenir une cause perdue, peut-être, en tout cas difficile à défendre. Comment pouvons-nous consentir à la répression banalisée? Comment y résister? C'est après d'autres exemples ce qu'on dit dans l'article. Encore quelques exemples. Liberté d'association ou de réunion, liberté syndicale ou universitaire, liberté de conscience ou d'expression. Depuis plusieurs mois, un peu partout en Europe, le pouvoir passe à l'offensive. En France, il cible les habitants des quartiers populaires qui peinent déjà à faire valoir leurs droits les plus élémentaires. En Grande-Bretagne, les autorités britanniques, donc, enferment les défenseurs de la Palestine, puisque, en effet, ils mettent en prison un certain nombre de militants sous l'accusation d'avoir défendu le terrorisme. En France, ce sont les militants de Nouvelle-Calédonie. Paris criminalise toute forme de contestation, comme l'a fait en effet le pouvoir policier à Londres. L'exception devient la règle, l'état d'urgence l'ordinaire, sans qu'aucun contre-pouvoir n'y fasse réellement obstacle. Tout cela au nom d'une sécurité érigée en impératif, mais réduite à ses acceptions militaires et policières. C'est la mythologie sécuritaire, c'est l'ère des répressions.
L'esprit du temps est incontestablement sécuritaire. Au soir de sa victoire à l'élection présidentielle du Chili, M. José Antonio Kast proclamait: Sans sécurité, il n'y a pas de paix. Sans paix, il n'y a pas de démocratie. Et sans démocratie, il n'y a pas de liberté. Et le Chili redeviendra libre du crime, de l'angoisse et de la peur. Dans le Star du 14 décembre 2025. Ces propos font écho à la campagne muselée menée par M. Nayib Bukele contre les gangs du Salvador, aux exécutions extrajudiciaires de narcotrafiquants présumés par l'administration de M. Donald Trump au large du Venezuela, au durcissement pénal impulsé par Mme Giorgia Meloni en Italie et par M. Ulf Kristersson en Suède, ou aux déclarations alarmistes de M. Gérald Darmanin et Bruno Retailleau en France. Longtemps, l'apanage de partis conservateurs, ces postures de fermeté se radicalisent et s'étendent à une large part du spectre politique. Les médias les relaient et les amplifient, car la criminalité et l'immigration confortent les audiences. Toute critique est présentée comme irresponsable. Pourtant, les enquêtes de victimisation suggèrent une stabilité, voire une baisse, de nombreuses formes de délinquance, à quelques exceptions près, très localisées. Des conclusions qui infirment l'idée d'un processus de décivilisation évoqué par M. Emmanuel Macron en Conseil des ministres le 24 mai 2023. Mais qu'importe, cette rhétorique efface plusieurs siècles de philosophie libérale de l'État, insistant sur l'équilibre nécessaire entre la liberté et la sécurité, au profit d'un slogan sans doute forgé par un cabinet de conseil en communication politique, « La sécurité est la première des libertés ».
Oui, c'est vraiment ce que fait ressortir l'article ici, avec, donc on l'a vu, un certain nombre d'exemples. La sécurité est la première des libertés. C'est quand même assez drôle, enfin je veux dire, drôle si on veut. Un pays qui avait fait la révolution en 1789 en mettant en avant, précisément contre la tyrannie, la liberté de penser et la liberté d'expression, maintenant la première des libertés, c'est la sécurité. Mais de quelle sécurité s'agit-il en fait? Dans le processus graduel de construction des États modernes, du XVIe au XIXe siècle, le concept de sécurité a acquis trois dimensions indissociables et complémentaires. La sécurité militaire, la sécurité policière et la sécurité juridique. Dans le cadre de la sécurité militaire, il s'agissait de faire face aux menaces existentielles. Il faut se défendre, y compris par la guerre. Que peuvent faire peser d'autres États? Dans la deuxième sécurité, la sécurité policière, cela renvoie à la préservation des biens et des personnes, ainsi qu'au maintien de l'ordre. Il s'agit en fait de la protection toute tentative de déstabilisation sociale ou politique. Et c'est là justement que, comme on dit, le bât blesse. Vous vous souvenez, on avait déjà dit, enfin Proudhon avait déjà dit, la propriété c'est le vol. Donc défendre à tout craint la préservation des biens, c'était peut-être déjà un problème. Quand il s'agit de défendre contre toute tentative de déstabilisation sociale ou politique, eh bien là, oui, l'orientation change. La sécurité juridique, quant à elle, vise à garantir par l'universalité du droit et l'indépendance de la justice les autres libertés, c'est-à-dire la liberté d'opinion, la liberté de circulation, la liberté d'entreprise. Il faudrait bien sûr que la justice garantisse l'égalité et bien sûr l'égalité de traitement de tous devant la loi. Et puis, la propriété et la solidarité. Il faut revenir à Karl Marx ou à Walter Benjamin pour montrer que le caractère formel de l'état de droit, qui en pratique protège davantage la population, ne fait que, finalement, protéger les possédants face aux opprimés. Alors, je vais vous laisser sur l'opposition des possédants et des opprimés, parce qu'il est l'heure de se quitter. Mais je vous rejoins la semaine prochaine pour d'autres propos politiques. Au revoir, à bientôt.